100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Bonjour à tous, 45 ans, ça suffit, le présent nous appartient. Ce refrain, c'était l'hymne de la chute du communisme en Bulgarie en 1989. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'enthousiasme de l'époque a fait place à la nostalgie. La Bulgarie, tout comme la Russie et l'Ukraine, font partie des trois pays de l'ancien bloc de l'Est qui regrettent le plus l'économie planifiée. Le libéralisme y est surtout synonyme de corruption débridée. 30 ans après la chute du communisme, quel bilan pour les habitants de l'ex-empire soviétique ? C'est notre premier reportage en Bulgarie avec Damien Vodenicharov.
La date du 7 juin 1990 reste gravée dans la mémoire des Bulgares. Ce jour-là, 1 million de personnes sont dans la rue pour soutenir l'opposition quelques jours avant les premières élections démocratiques. C'est la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Tout a commencé quelques mois plus tôt, le 9 novembre 1989. Le jour même de la chute du mur de Berlin, le secrétaire général du Parti communiste, Todor Zhivkov, est destitué par le Politburo. Après 35 ans au pouvoir, ce proche de Léonid Brejnev n'a pas su opérer la transition. Mikhail Gorbatchev refuse de l'accueillir à Moscou. Une double révolution est alors en marche, celle du peuple et celle que tente le parti, dont les objectifs sont clairement de confisquer la richesse du pays. Konstantin Trenchev, président de Podkrepa, premier syndicat libre.
La nomenklatura et la police secrète préparaient ce processus à l'avance. Elles n'étaient pas prises au dépourvu. Ce qui les intéressait, c'était d'accaparer cette propriété populaire, comme on l'appelait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est même un premier ministre démocrate, Ivan Kostov, qui a réparti les biens publics aux anciens membres de la nomenklatura et de la police secrète, au lieu d'attirer les grands investisseurs occidentaux.
Dans ce contexte, et sans surprise, 7 ans plus tard, une grave crise économique frappe la Bulgarie. Le gouvernement lance alors une série de privatisations sauvages. Les effets sont catastrophiques. Les économies des Bulgares disparaissent suite à l'hyperinflation. Le gouvernement est criblé de dettes qu'il ne peut rembourser. Le crime organisé et la corruption s'installent. Les structures sociales s'effondrent. On commence déjà à regretter l'ordre imposé par le régime communiste. Konstantin Trenchev.
La nostalgie vient de ces problèmes sociaux qui ont surgi au début de la démocratie. Un exemple, je suis médecin, mon père l'était aussi. Les soins étaient abordables et il y avait beaucoup moins de bureaucratie. Les médecins ne voyaient pas leurs patients comme une source constante de revenus. Un autre exemple, l'éducation. Et je ne peux dire que du bien de l'éducation au temps du communisme. On étudiait l'idéologie communiste, mais dans son ensemble, l'éducation était très bonne.
Quasiment tous les secteurs économiques ont été touchés. Si aujourd'hui la moitié des Bulgares approuvent les réformes démocratiques de ces dernières années, un tiers estime qu'on vivait mieux au temps du communisme. La Bulgarie est, avec la Russie et l'Ukraine, un des pays où la nostalgie est la plus forte. Velislava Dareva est journaliste et ancienne dissidente. Pour elle, le climat politique va encore se dégrader.
On est allé jusqu'à manipuler la mémoire collective de la population. Lorsque les gens ont du mal à survivre, ils sont prêts à sacrifier leur liberté pour être en sécurité. Mais dans ce marchandage, on perd les deux. À l'avenir, c'est la nostalgie du pouvoir autoritaire qui va se renforcer.
Les tendances autoritaires se renforcent avec une concentration de pouvoir entre les mains de quelques postes clés. Le procureur général, par exemple, dont l'élection récente a été qualifiée de coup d'État secret par ses opposants.
En République tchèque, pas de nostalgie, bien au contraire. L'enquête d'un centre de recherche américain réalisé en septembre révèle que 85% des Tchèques et des Polonais soutiennent le passage à la démocratie et au capitalisme. En République tchèque, le passé communiste est plutôt perçu comme un vieux fantôme dont beaucoup aimeraient se débarrasser. À l'image du chef du gouvernement tchèque, Andrej Babiš, Alors que le pays célébrait cette semaine le 30e anniversaire de sa révolution de velours, plus de 200 000 personnes se sont rassemblées dans la capitale le week-end dernier pour demander le départ de leur Premier ministre. Les Tchèques lui reprochent son passé de communiste. Les explications d'Alexis Rosenzweig.
Andrej Babiš a beau avoir remporté largement toutes les dernières élections organisées en Tchéquie, il a dû faire amende honorable le 17 novembre dernier lors des grandes commémorations organisées pour le 30e anniversaire de la révolution de velours. Le Premier ministre tchèque sait que pour une partie de la population, surtout dans la capitale Prague, son passé communiste est un fardeau dont il ne pourra se débarrasser. Dans son discours, il a donc solennellement déclaré qu'il n'était pas fier d'avoir été membre du Parti communiste et qu'il n'avait pas eu le même courage que les dissidents. Václav Havel en tête. Le problème, c'est qu'au-delà de sa carte de membre du parti, les opposants d'Andrej Babiš, qui ont manifesté en nombre samedi dernier, lui reprochent d'avoir été un agent de la police secrète, ce que lui continue de démentir. Les protestataires lui reprochent également le fait que son gouvernement s'appuie sur les voix des députés communistes au Parlement. Le Premier ministre rétorque que ce sont aussi des députés communistes qui ont élu Václav Havel à la présidence de la République en 1989. Et là, c'est toute la transition démocratique à Prague qui refait débat, avec la sempiternelle interrogation sur le Parti communiste. Fallait-il l'interdire dès la chute du régime? Fallait-il poursuivre en justice ses dirigeants? Ces questions n'ont toujours pas fini d'être débattues dans un des pays les plus communistes en termes d'adhérents au parti, devenu aujourd'hui l'un des plus anticommunistes, et où être de gauche est considéré comme bizarre, voire indigne, surtout chez les plus jeunes. D'autant que certains députés communistes dérape encore de temps en temps. Au début du mois, l'un d'entre eux a dû s'excuser pour avoir encore minimisé les conséquences de l'écrasement du printemps de Prague et l'invasion du pays orchestrée par les soviétiques en 1968.
En Albanie, 30 ans après la chute du communisme, c'est le désir de rejoindre l'Europe qui domine. Pour une société sous le joug de l'Union soviétique pendant près d'un demi-siècle, l'Europe est synonyme de démocratie et de liberté. Voilà 10 ans déjà que l'Albanie a déposé sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Depuis 2014, le petit pays de 3 millions d'habitants a le statut officiel de candidat à l'entrée de l'UE, mais il s'impatiente. Reportage dans ce petit pays, l'un des plus europhiles du continent, avec plus de 80% d'opinions positives sur l'Europe. Louis Seyé.
Le visage tourné vers le soleil d'automne, c'est l'heure de la séance photo pour Eriona. La jeune femme de 22 ans prend la pose devant le musée national de Tirana. Mais quand on lui parle d'Emmanuel Macron, cette jeune diplômée en économie perd le sourire.
Moi, je n'aime pas le fait que l'Union européenne fonctionne de cette façon. Si l'un des États n'est pas d'accord, que tu rentres dans l'UE, je veux dire, ça ne devrait pas être possible qu'un seul pays puisse déterminer le destin d'un autre pays. Ce doit être décidé à la majorité. Ce n'est pas possible que seule l'élite de la France puisse décider de notre destin.
Le veto du président français opposé à l'Albanie et à la Macédoine du Nord a été peu apprécié dans les Balkans. Pour Eriona, l'attente prolongée des Albanais à la porte de l'Union européenne, c'est tout simplement injuste.
L'Albanie aussi devrait avoir cette possibilité, comme tous les autres pays d'Europe, de devenir membre de l'Union européenne. Surtout pour nous donner à nous les jeunes une possibilité de nous intégrer à l'UE et de nous permettre ici de fonctionner comme un État européen, que ce soit du point de vue de la justice, de l'enseignement, qu'il y ait une sorte de remise aux normes.
Nous voulons l'Albanie comme les autres en Europe. Depuis la chute de la dictature stalinienne il y a 30 ans, ce slogan rythme les manifestations en Albanie. Pour Raf Joni, député du mouvement socialiste pour l'intégration, c'est grâce à l'adhésion à l'UE que les Albanais espèrent changer leur pays.
La seule chose qui a tenu l'espoir du peuple albanais, qui est entouré de la corruption, de criminalité dans la politique ici, c'est l'espoir d'adhérer un jour à l'Union européenne, en espérant que l'adhésion à l'Union européenne va améliorer les standards de la politique, de gouvernance et les standards sociaux dans le pays. C'est ça la logique. C'est pour ça que les Albanais veulent toujours être et faire partie de l'Union européenne.
Franco-albanais, le député Raf Joni a voté pour Emmanuel Macron en 2017. Très déçu et même blessé de cette position française, il redoute les conséquences qu'elle pourrait avoir pour les pays des Balkans.
Le message qui est donné par Paris, c'est un message contre-européen Et c'est un message qui laisse ouverte la porte pour d'autres pays de l'Est, notamment la Russie, la Turquie, la Chine, pour pénétrer dans les Balkans.
Si l'influence de ces trois pays augmente dans les Balkans, l'Albanie, elle, n'a Dieu que pour l'Europe, et les Albanais restent des pro-européens convaincus. Problèmes économiques ou d'état de droit, pour la majorité des Albanais, la solution reste l'intégration à l'UE. C'est ce qu'assure Gledis Gjipali de l'ONG Mouvement Européen en Albanie.
Bien sûr, il y a différents acteurs qui sont de plus en plus présents et influents dans la région, surtout ces dernières années. Mais même malgré cela, seul le modèle de l'Union Européenne reste perçu comme celui qu'il faut pour l'Albanie.
Même si la porte a du mal à s'ouvrir, l'Union Européenne, les Albanais y sont déjà un peu. Depuis la chute du régime communiste en 1991, plus d'un million d'Albanais se sont installés dans un pays de l'Union Européenne. Gledis Gjipali.
Un tiers de notre population vit dans les pays de l'Union européenne. C'est une migration récente de ces 20 à 25 dernières années. Chacun de nous a des proches qui vivent au sein de l'Union, donc nous savons ce que ça veut dire de vivre dans un pays de l'UE, dans des pays démocratiques où les institutions et les lois fonctionnent bien. C'est un modèle que nous voulons suivre et c'est pour ça que nous ne voyons pas d'alternative.
Si la décision française a été très critiquée dans les Balkans, elle n'a pas surpris les jeunes comme Zurata. À 25 ans, cette téléopératrice est surtout remontée contre la classe politique. Pour elle, les dirigeants albanais n'ont pas rempli les conditions posées par l'Union européenne.
Je n'ai pas mal réagi parce que je m'y attendais. Je m'y attendais parce que pendant tout ce temps, on n'a rien fait de ce qui nous était demandé. Les problèmes sont ici et ce n'est pas à cause d'autres pays. Quand on te demande de faire des choses, fais-les. Et si tu ne le fais pas, tu n'obtiens rien.
Corruption, criminalité, absence de méritocratie. Pour Zurata, les problèmes sont bien réels en Albanie. Et ils sont autant de raisons de partir.
Si les négociations ne s'ouvrent pas, on continuera de quitter le pays en partant demander l'asile ou par d'autres moyens. Comme on part maintenant, on va continuer de quitter le pays.
Fatigués d'attendre que l'UE vienne à eux, beaucoup de jeunes Albanais continuent de quitter le pays et la crise démographique s'aggrave. En seulement 8 ans, l'âge médian de la population albanaise est passé de 32 à 36 ans.
Direction la Géorgie à présent, où un membre du clergé orthodoxe détonne par sa liberté de ton. Il s'agit du père Jacob, évêque de Baudbé. Régis Janté nous en dresse le portrait haut en couleur.
C'est de sa propre initiative que le 26 octobre, le père Jacob, évêque de Baudbé et chef du puissant conseil économique et financier du patriarcat, a appelé la télévision Pirveli pour y faire en direct une révélation explosive. Le pouvoir politique, a-t-il prétendu, de sa voix rugueuse, a essayé, en 2016, de renverser le patriarche pour le remplacer par le métropolite Chio Mougiri, un pro-russe. Le tout avec, prétend le père Jacob, un plan pour assassiner le chef de l'église. Émotion dans le pays, est-il devenu fou? On en doute. Le clerc maîtrise généralement très bien sa communication, en dépit d'une longue barbe hirsute et de soutanes noires ou bordeaux à l'hygiène douteuse. Une communication qui s'exprime avec un vocabulaire de caïd, hérité du début des années 1990, avant qu'il n'intègre les rangs de l'église, époque où il était responsable des approvisionnements en essence pour une milice paramilitaire qui régnait sur une Géorgie en plein chaos. C'est le 17 mai 2013 que son vocabulaire fleuri a été remarqué par ses compatriotes. Au soir de la journée internationale contre l'homophobie, où les hiérarques de l'église géorgienne avaient mobilisé la haine de milliers de fidèles contre la vingtaine de militants LGBT réunis, le père Jacob avait mis en garde les forces pro-occidentales du pays en leur lançant, je cite, « S'ils ne comprennent pas la leçon, on va leur expliquer d'une autre manière ». Depuis, il s'avère que Jacob s'est retrouvé dans le mauvais camp pour la succession du patriarche il y a deux. Alors, il a fait volte-face pour se présenter en religieux aux valeurs pro-occidentales, au point d'aller faire des ronds de jambes à Bruxelles et Washington, gommant avec peine, mais aplomb, son vocabulaire de caïd. Every effort we take to reduce the footprint we make, yeah. Matters more than you think, because the whole world is at stake, yeah. Tiny snowflakes join into an avalanche with power, power. Saving energy counts, every single kilowatt hour, yeah. Let's come together and show Mother Earth how much she's worth.
C'est la semaine européenne de la réduction des déchets, l'occasion de faire un tour d'horizon européen avec notre chroniqueur Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Léa Lisa.
Première question Daniel, est-ce qu'on trouve en Europe des pays qui produisent moins de déchets que les autres ?
Globalement, en 2016, l'ensemble des pays de l'Union a généré quelque 2,5 milliards de tonnes de déchets, soit près de 5 tonnes par habitant. Mais la majeure partie de ces résidus est constituée de résidus miniers particulièrement importants dans certains pays producteurs du nord de l'Europe. Si l'on exclut les activités extractives, on constate simplement que la production de déchets est proportionnelle à l'activité industrielle.
Quels sont les pays écologiquement responsables en matière de déchets ?
En matière de déchets engendrés par les ménages, plusieurs pays se situent nettement au-dessus de la production européenne moyenne de 327 kilos. Et ils sont diversifiés puisque on y trouve à la fois le Royaume-Uni et l'Espagne, le Portugal et le Danemark, ou encore l'Irlande et les Pays-Bas. Les consommateurs de ces pays semblent jeter beaucoup. Quant à la France, elle se situe un peu en dessous de la moyenne européenne avec 318 kilos.
Y a-t-il des pays qui jettent moins de choses à la poubelle ?
Les Allemands et les Italiens ne jettent à la poubelle que 250 kilos par an. Les Finlandais et les Suédois sont encore plus attentifs. Il en va de même, et l'on s'y attendait moins, des Polonais. Mais les champions toutes catégories de l'économie en matière de déchets sont les habitants de la petite Slovénie, qui ne rejettent que 170 kilos par personne.
Comment ça s'explique ?
Eh bien, outre un centre de traitement très performant aux portes de la capitale, Ljubljana, la population a été bien éduquée à l'économie et au tri par un système de collecte à domicile des déchets organiques puis du papier carton, doublé ensuite d'une non-collecte des déchets résiduels.
Quelles sont les différentes manières de traiter les déchets ménagers ?
La moins polluante consiste à recycler des emballages ou encore à produire de l'énergie à partir du traitement ou de l'incinération de déchets. L'incinération simple fait en revanche partie des traitements de déchets les plus polluants ainsi que le dépôt en décharge. Selon les objectifs européens, ce recours aux décharges devrait s'appliquer à moins de 10% des déchets traités en 2035. Mais de nombreux pays en sont loin. Ce sont très souvent des pays de l'Est, comme la République tchèque, la Roumanie ou la Slovaquie, qui envoient les deux tiers de leurs ordures à la décharge. Mais à l'Ouest, deux pays se distinguent en mal, le Portugal et la France. Car l'Hexagone jette 36% de ses déchets ménagers à la décharge, alors que l'Italie n'y dépose que 5% et que les Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne ont éliminé cette pratique.
Ces pays ont donc de meilleures pratiques ?
Oui, mais pas de la même manière. L'Allemagne et encore plus les Pays-Bas et la Belgique produisent de l'énergie avec 60 voire 80% de leurs déchets. La France n'en canalise que 48% dans cette filière, pourtant très ingénieuse, puisqu'elle contribue à la production d'énergie renouvelable. Quant à l'Italie, elle est parvenue à éliminer plus des deux tiers de ses déchets via une filière de recyclage des emballages particulièrement performante, puisqu'elle implique 6000 entreprises employant 155 000 salariés. À noter que les Polonais sont également performants dans ce domaine. Les Français, en revanche, sont bien en retard en matière de recyclage des emballages, puisque celui-ci ne concerne que 6% des déchets traités.
La France ne brille donc pas du tout en Europe en ce qui concerne le traitement des déchets, Daniel.
Effectivement, l'Hexagone affiche des résultats médiocres, peu conformes au discours volontariste de ses dirigeants. La moitié des déchets qu'il produit est traitée soit par mise en décharge, soit par incinération simple. Et le pays est très loin des objectifs européens visant le recyclage de 65% des emballages d'ici à 2025. Par comparaison, l'Allemagne traite vertueusement les deux tiers de ses déchets et l'Italie les trois quarts. Sans parler des Pays-Bas, de la Belgique qui font encore beaucoup mieux ou de la Suède et du Danemark qui recyclent à 100%.
Merci Daniel Vigneron.
À bientôt Léa Lisa.
Accent d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Françoise Grelot. Pour nous retrouver et nous écouter, rendez-vous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast. À demain.